Europe 1.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Stéphane.
Bonjour David. Bonjour Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant. Vous êtes avec nous aujourd'hui.
Bah avec plaisir.
Oui, ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire, mais sans se la raconter. En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun quand même.
Ah, ne dites rien, Stéphane, je vais trouver.
Comment voulez-vous trouver, David?
Ben, en trichant, en regardant sur vos fiches, en regardant juste votre tête, d'ailleurs.
Ah oui, faites plutôt ça. Alors, je vous le dis, nos personnages du jour ont fait la République. La République, c'est eux. 230 ans, jour pour jour, après la proclamation de l'abolition de la royauté en France, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi.
La République, c'est moi !
Oui, oui, Jean-Luc, mais il y en a eu d'autres avant vous, la preuve. A commencer par un couple uni dans la Révolution qui a partagé ses idées, ses amours, ses combats et un rêve, celui d'une République. Je vous raconte les révolutionnaires Camille et Lucile Desmoulins. Puis lui aussi a œuvré pour une République, la troisième du nom. Son nom à lui, Léon Gambetta, homme politique et grand orateur resté comme le père fondateur d'une République nouvelle. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui allez dresser le portrait de notre troisième personnage qu'on a déjà entendu, là.
La République, c'est moi !
Eh oui, c'est lui ! Jean-Luc Mélenchon était un peu énervé ce jour-là. Je vais pas l'énerver davantage, mais je vais quand même dresser son portrait.
Bon, ça sera à 17h30. Eux ne s'énervent jamais, quoique un peu quand même pour la première. Ce sont nos chroniqueurs. Ils sont avec nous cet après-midi. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui allez-vous nous parler, Clémentine?
Eh bien, de Jean-Baptiste Bellay, dit Tim Bazé, dit aussi Mars. Et qui était-il? Et tout simplement, le tout premier député africain de l'histoire de France. Oui, la République, ce fut lui aussi dans les tout débuts de la République, sous la Convention.
Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession. Parfois, ce sont les siennes d'obsession. C'est David Castillo-Lopez.
Oui.
Alors, de quoi allez-vous nous parler?
Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une coupe de cheveux qui était impossible il y a quelques années. C'était vraiment le comble de la ringardise. Et aujourd'hui, elle revient. C'est la coupe mulet.
Ah, oh non.
Si, ça revient. Non.
Courte devant, longue derrière. Alors, je pense que personne ici
non.
pourrait la porter sans être ridicule.
Non.
Mais c'est possible, alors que c'était strictement impossible il y a quelques années.
Ah oui.
Ouais, dans les collections de mode de 2022, il y avait
comment vous avez eu cette idée?
Bah parce que
qu'il se promène dans la rue, ça revient très fort.
C'est vrai que ça revient. Puis on a beau ne pas l'aimer, on la connaît en fait.
Oui,
voilà.
Oui, bien sûr, on la connaît.
C'est du quotidien.
Alors en fin d'émission, comme dirait l'autre. Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé et aujourd'hui on parle gastronomie. Direction l'époque du règne de Louis XIV avec vous, Olivier Pouls, pour nous présenter une chose à laquelle le roi tenait en particulier.
Oui, son potager, le fameux potager du roi Louis XIV, potager de Versailles, extraordinaire lieu. Je sais que vous avez un petit potager vous aussi du côté de Thiron-Gardet. On verra si on peut les comparer.
Non, on peut pas. Oui, j'ai un potager mais très âgé. Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure en fin d'émission.
Vous avez tout dit, Stéphane?
Oui, vous le savez bien.
Non, justement, écoutez.
Oui, mais tous les jours à cette heure-là, vous me dites « Vous avez tout dit, Stéphane ?» Et tous les jours, je réponds « Oui ». Vous pensez que je fais exprès? C'est une plaisanterie, en fait.
Non, c'est pas une plaisanterie, mais écoutez, on va faire une petite consultation. Hein. Vous avez peut-être un petit problème de mémoire, c'est pas grave, ça va s'arranger.
Non, mais je sais qu'il y a Burn to be Alive, mais vous n'êtes pas obligé d'insister non plus.
Ah bah si, sinon on n'en parle pas. Ouais. On va jouer à Burn to be Alive, un quiz historique où vous serez opposé à Clémentine. Comme tous les jours, la bataille va faire rage.
Bon, écoutez, c'est tout à l'heure le quiz soi-disant historique. Mais pour l'heure, je vous raconte nos premiers personnages du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Ils ont formé un couple considéré comme le symbole des amours sous la Révolution. Amoureux l'un de l'autre, mais amoureux par-dessus tout de la République. Je vous raconte le couple Camille et Lucile Desmoulins. Nous sommes le 8 juillet 1792 à la Maison commune de Paris. Ce jour-là, en présence de deux députés de l'Assemblée nationale, Camille Desmoulins, 32 ans, fait inscrire son fils sur le registre de la municipalité. Horace est le fruit de son amour avec son épouse, Lucille. Le petit garçon, né il y a 2 jours, est le premier nourrisson de Paris à bénéficier de ce que l'on pourrait appeler un baptême civique. Car désormais, la Constitution reconnaît le mariage comme un contrat laïque et précise que la loi établit la manière dont les naissances, mariages et décès seront constatés par les municipalités. Camille ne pouvait rêver mieux. Cette démarche administrative, aujourd'hui banale, est à l'époque novatrice, pour ne pas dire révolutionnaire. Dans un peu plus de 2 mois, la République française va succéder à la monarchie constitutionnelle et Camille Desmoulins en est en partie le bâtisseur. Souvenez-vous. 3 ans auparavant, presque jour pour jour, en 1789, Camille Desmoulins, avocat et futur journaliste, devient l'homme du 12 juillet. La veille, Jacques Necker, le ministre des Finances de Louis XVI, a été renvoyé. Les Parisiens considèrent Necker comme un ami du peuple. Le ministre souhaitait notamment que les plus riches payent une partie de la dépense publique. Avec ce renvoi, les Français craignent pour la survie de la toute jeune Assemblée nationale qui a succédé aux États généraux. Il faut donc agir, et vite. Ce dimanche 12 juillet, il est 15h, lorsque Camille Desmoulins arrive au Palais Royal. Le jardin est devenu depuis quelque temps le lieu de rencontre des sympathisants de la Révolution. On y débat, on diffuse des idées, on commente l'avancée des travaux à l'Assemblée. Camille Desmoulins n'a pas pour habitude d'haranguer la foule. Il souffre de bégaiement et a souvent peur de manquer de charisme. Mais son combat pour une nation plus libre, plus égale, plus fraternelle, lui fait oublier son handicap. Il monte alors sur une table et interpelle les Parisiens pour créer sa colère. « Aux armes, aux armes !» Prenons tous des cocardes vertes, couleur de l'espérance. L'infâme police est ici. Eh bien, qu'elle me regarde, qu'elle m'observe bien. Oui, c'est moi qui appelle mes frères à la liberté. Camille lève alors un pistolet et termine. Du moins, ils ne me prendront pas en vie et je saurai mourir glorieusement. Il ne peut plus m'arriver qu'un malheur, c'est celui de voir la France devenir esclave. Pour beaucoup, comme le raconte l'historien de la Révolution française, Hervé Lewers, Desmoulins est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et qui va aboutir au 14 juillet 1789. Ensuite, les événements s'accélèrent, abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme, installation du roi et de sa famille à Paris. Pour Camille Desmoulins, ce 12 juillet signe un tournant dans sa carrière d'homme de lettres et d'avocat, comme il s'en réjouit auprès de son père dans une lettre de septembre 1789. Pensez qu'une grande partie de la capitale me nomme parmi les principaux auteurs de la Révolution. Beaucoup même vont jusqu'à dire que j'en suis l'auteur. Peut-être alors ai-je sauvé Paris d'une ruine entière et la nation de la plus horrible servitude. Camille est d'autant plus heureux qu'au même moment, il se rapproche d'une certaine Lucille Duplessis. Au départ, lorsqu'il la rencontre au jardin du Luxembourg, l'étudiante de 23 ans est davantage intéressée par sa mère. Il faut dire que Lucille est trop jeune, elle a à peine 13 ans. Mais les années passent et la jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux noirs ne le laisse pas indifférent. Pourtant, les parents Duplessis refusent d'imaginer leur fille épouser le jeune Desmoulins car, à en croire Madame Duplessis, la disproportion des fortunes est un obstacle insurmontable. Il faut bien avouer que les deux futurs époux Desmoulins n'ont en effet que peu de choses en commun. Lucille est bien née, ses parents sont de riches bourgeois. Elle occupe ses journées entre ses leçons particulières avec son précepteur à Paris et ses étés dans la demeure familiale cossue de Pont-la-Reine. Camille, quant à lui, est un étudiant picard venu étudier dans un premier temps au prestigieux collège Louis-le-Grand, puis à la faculté de droit. Sa famille est, vous l'avez compris, bien plus modeste que celle des Duplessis. Pendant plusieurs années, le jeune avocat aura en tête de convaincre les parents de Lucille. Pour cela, il doit donc obtenir une situation financière stable. Avec la Révolution, il se spécialise notamment dans le journalisme et crée différentes brochures qui accablent le pouvoir en place. La France libre, le discours de la lanterne aux Parisiens, Révolution de France et de Brabant. C'est pour Camille un travail titanesque. Il assiste aux séances de l'Assemblée, il discute avec les députés, il n'hésite pas à donner son opinion dans sa brochure. Il qualifie l'abbé Maury, un orateur très conservateur, de prince des démons. Il en est de l'Assemblée nationale comme du corps humain. Elle a aussi ses ordures. Ses amis se nomment Mirabeau, Robespierre. Desmoulins tisse un réseau de correspondants en province, et ça plaît. Rapidement, son journal ne compte pas moins de 3000 abonnés. De son côté, la jeune Lucille affirme également ses idées révolutionnaires dans son journal intime. Sa cible à elle, la reine. Crains l'exemple des reines qui, comme toi, ont fait le mal. Vois, les unes ont péri dans la misère, les autres ont porté la tête sur l'échafaud, écrit-elle. Camille et Lucille, ces deux-là, ont la révolution chevillée au corps. Mais les parents de la jeune fille vont-ils enfin la laisser convoler avec l'homme du 12 juillet ? Ces choses faites le 29 décembre 1790, emballées, c'est pesé. Deux jours avant, pour la signature du contrat de mariage, jamais autant de témoins aussi prestigieux n'avaient été réunis. Robespierre, Mirabeau, Danton, Pétion sont présents. Le couple des Moulins s'installe au troisième étage d'un immeuble récent proche du jardin du Luxembourg. Au-dessus de son bureau, Camille a accroché la Déclaration des droits de l'homme, car la santé politique de la France est toujours fébrile. Pourtant, quelque temps plus tard, dans la nuit du 21 au 22 juin 1792, le roi et sa famille sont arrêtés à Varennes alors qu'ils tentent de partir vers l'Est. Il semble que le ciel nous ait envoyé cette occasion unique de faire une grande expérience de la République, se réjouit Camille. Dans la foulée, le 10 août, les Tuileries sont envahies par les sans-culottes et le roi est arrêté. Camille participe à cette folle journée. Lucille reçoit les fédérés marseillais à déjeuner. Quand elle apprend l'attaque des Tuileries, la résistance des gardes suisses et la riposte des insurgés, elle écrit « Nous étions vainqueurs ». Et ils le sont. La monarchie s'effondre et le pouvoir est exercé par la Commune et l'Assemblée nationale. Danton devient ministre de la Justice. Camille Desmoulins, son ami, est nommé secrétaire général du département de la Justice et en septembre, il est enfin élu député de la Convention. Le 21 septembre 1792, il y a 230 ans, jour pour jour, la royauté est abolie. Et quatre mois plus tard, le 21 janvier 1793, Louis XVI sera décapité. Dans son journal, Lucille Desmoulins n'en fait pas grand cas. Elle semble adhérer pleinement aux idéaux républicains de son époux. C'est aujourd'hui que l'on fait mourir Capet. Tout s'est passé avec une tranquillité parfaite. Pourtant, la France est loin d'être apaisée. Notre pays est enlisé dans une guerre face à l'Empire et à d'autres nations. Cette situation inquiète Camille Desmoulins. Contrairement à certains de ses collègues, il défend la paix et aimerait que les députés se concentrent sur la mise en place rapide de la République. Et comme à son habitude, il attaque sans ménagement ceux qu'il considère comme indignes de la Révolution, notamment les députés hébertistes. Camille lance ce qui sera son ultime et son plus célèbre journal, Le Vieux Cordelier. Il n'hésite pas, dès le troisième numéro, à mettre en cause le gouvernement révolutionnaire et sa rigueur. Cette fois, il est allé trop loin. Camille Desmoulins est arrêté le 31 mars 1794 et guillotiné le 5 avril. Sa femme, Lucille, subira le même sort une semaine plus tard. Fin de l'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Camille et Lucille Desmoulins avec Jean-Luc Lemoine et Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui leur a consacré une magnifique biographie parue chez Fayard. Bonjour Hervé Levers.
Bonjour.
Camille Desmoulins, c'est l'éternel homme du 12 juillet qui harangue la foule après le renvoi de Necker et l'appelle à prendre les armes deux jours avant la prise de la Bastille. On écoute un extrait du film La Révolution française dans lequel l'acteur François Cluzet interprétait justement Desmoulins en 1989.
Nous n'avons qu'une seule ressource, les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire.
Alors, Hervé Lewers, vous parlez de Camille Desmoulins comme l'étincelle qui met le feu aux poudres et qui va aboutir au 14 juillet 1789. Ce jour-là, il est véritablement entré dans l'histoire ?
Il entre dans l'histoire et dans l'histoire immédiate parce qu'il est reconnu comme tel, comme l'un de ceux qui a lancé finalement ce qui allait mener à la prise de la Bastille deux jours plus tard. Mmh. Et dans les premières gravures qui représentent le 12 juillet, qui paraissent dès 1789, dès 1790, cette scène où on le voit monter sur une table et haranguer la foule est représentée et son nom parfois apparaît. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va l'appeler, dit-on habituellement, par son prénom, on l'appelle Camille, mais en fait, ce prénom de Camille, c'est aussi un nom qui renvoie au général romain Camillus, Camille, qui a sauvé Rome des Gaulois au IVe siècle avant Jésus-Christ, Et lui, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, se présente un peu comme celui qui a sauvé Paris des armées royales en juillet 1789.
Clémentine ?
On voit que ça a été un couple aussi, les deux Moulins. Il y a eu sa femme, lui journaliste, elle diariste. Est-ce qu'elle a pu quand même jouer un rôle dans cette histoire ?
Elle est présente politiquement en étant dans les tribunes de l'Assemblée, où elle écoute notamment au moment du procès du roi les discours. Donc c'est quelqu'un qui s'engage, mais à l'intérieur du cercle familial, entre ses amis, des femmes de conventionnel qu'elle fréquente souvent. C'est une femme engagée par ses convictions, plus que par une action qu'on pourrait considérer comme politique.
Hervé Lewers, Camille et Lucie Desmoulins partageaient un rêve de république. Une république, selon les mots de Camille, que tout le monde eût adoré. Quelle était précisément pour eux cette république rêvée ?
Il y a eu ce rêve de république qui a été particulièrement fort en 1789 et au début de 1790, lorsque dans la ville de Paris, il y avait les districts qui avaient leurs assemblées régulières et qui jouaient un rôle politique très fort auprès de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, c'était un peu une république de fait, avec un roi à la tête de l'État. Mais pour les hommes du XVIIIe, une république peut exister avec un roi à sa tête. L'Angleterre est très souvent qualifiée de république au XVIIIe siècle. Donc pour ces hommes-là, l'essentiel, c'est qui détient la souveraineté, qui a l'autorité, qui fait la loi. Pour Camille Desmoulins, en 89-90, la république rêvée est peut-être un rêve accessible. Il va y renoncer après.
Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots forment la devise de la République française. Hervé Lewers, il semble que Camille Desmoulins n'y est pas pour rien.
Non, il y a joué un rôle, effectivement. Alors ce sont trois mots qui sont associés parfois au XVIIIe siècle, chez Mably, chez Voltaire, on les retrouve côte à côte, mais pas nécessairement dans cet ordre-là et pas séparés par une virgule. Et le premier, pense-t-on en tout cas, c'est la première référence qu'on ait trouvée dans les textes, c'est Camille Desmoulins à l'occasion de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui évoque les fédérés, qui se congratulent et qui font preuve de liberté, d'égalité, de fraternité, qui se jurent liberté, égalité, fraternité. On est en juillet 1790, et l'année suivante, Robespierre va être le premier à vouloir en faire une devise et à proposer que liberté, égalité, fraternité deviennent une devise de la France.
Moins de deux ans après la proclamation de la République, je l'ai raconté, Camille Desmoulins est guillotiné après un simulacre de procès. Pourquoi a-t-il été conduit à l'échafaud ? En quoi ses positions étaient devenues dérangeantes ? Puis surtout, on a le sentiment qu'il a été trahi par ses amis d'hier.
Effectivement, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, Camille Desmoulins, dans son journal Le Vieux Cordelier, a mis en cause le gouvernement révolutionnaire en expliquant que la République, elle aussi, pouvait virer un jour ou l'autre au despotisme et que c'était un véritable danger qui la menaçait. Il a expliqué aussi que les arrestations arbitraires étaient trop nombreuses et qu'il fallait mettre en place un comité de clémence pour libérer les patriotes innocents. Il a donc pris parfois des positions qui ont été jugées hostiles au gouvernement révolutionnaire. Il devenait un danger politique pour certains parce qu'on considérait que, comme Danton, il introduisait une sorte de division au sein du gouvernement révolutionnaire.
Clémentine ?
Est-ce vrai qu'au moment d'être exécuté, il tenait une mèche de Lucile dans sa main ? On a conservé leurs dernières lettres. Quels ont été les derniers mots échangés entre eux ?
Alors la dernière lettre de Camille Desmoulins à Lucile est conservée. Elle est conservée à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est un superbe document qui a été écrit sur un temps assez long. Au départ, on sent qu'il y a encore un peu d'espoir chez ce député. L'espoir va s'espacer à la fin et ça se termine comme une lettre d'adieu. Il écrit notamment « Adieu Lucile, ma chère Lucile, je sens fuir devant moi le rivage de la vie ». Et ça va se terminer comme ça.
Mais huit jours plus tard, c'est son épouse, donc Lucile Desmoulins, qui est guillotinée à son tour. Qu'est-ce que le gouvernement pouvait lui reprocher ?
Lucile Desmoulins est dénoncée comme étant la complice de ce que l'on appelait à l'époque un complot des prisons. Alors c'est lié à une lettre que lui a envoyée un ami, Dillon, qui était incarcéré, qui lui expliquait que l'innocence de son mari, d'elle-même, de tous leurs amis allait être bientôt reconnue. Et Saint-Just a dénoncé à ce moment-là un complot des prisons qui aurait eu pour but de libérer les prisonniers politiques hostiles au gouvernement révolutionnaire, puis de renverser le gouvernement révolutionnaire. Bon, c'est un procès politique, hein, incontestablement. On a des gens qui vont être condamnés et envoyés à la guillotine, qui n'ont rien en commun. L'ancien évêque Gobel, en même temps que la veuve d'Hébert, en même temps que Lucile Desmoulins. C'est une femme dont on voulait se débarrasser.
Et qu'est devenu son journal intime? Parce que, comme le rappelait Clémentine, elle était diariste. Lui, évidemment, on a ses écrits dans le Vieux Cordelier, mais elle, il y a son journal. Comment elle raconte ces événements et la fin de sa vie?
Alors, son journal, malheureusement, pour les historiens, n'est pas conservé en entier. On le conserve jusqu'en février 1793, donc un an à peu près avant sa mort. Il est conservé également en grande partie à la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans les papiers Camille Desmoulins. Mais par la suite, elle s'exprime encore par l'intermédiaire de lettres à des amis, notamment à son ami Fréron. Et on a une lettre d'elle au tout début de l'année 1794, où on la voit un peu désespérée. Elle dit qu'elle ne rêve plus, qu'elle ne joue plus de piano, qu'elle est totalement désespérée, comme Danton est devenu sans force, en quelque sorte, face à l'hostilité qu'il ressent au quotidien. Et on sent une femme qui perd espoir et qui va renoncer à la vie. On a son dernier petit mot envoyé à sa mère. Elle écrit à sa mère « Bonsoir, chère maman. Une larme s'échappe de mes yeux. Elle est pour toi. Je vais m'endormir dans le calme de l'innocence. » Et ça, son petit mot est conservé dans les archives de sa mère à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Jean-Luc ?
Alors, Lucie et Camille Desmoulins ont été guillotinés, mais moi, je m'inquiète un peu pour Horace, leur fils, parce que quand les parents viennent à disparaître aussi dramatiquement, qu'est-ce qui est devenu Horace ?
Alors, Horace, il a été recueilli par sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé dans le culte de son père, véritablement. C'est un jeune homme qui a fait de belles études à Paris, y compris des études de droit, mais qui ensuite n'a pas été intéressé par la carrière du journalisme ou la carrière de l'avocature comme son père. Il voulait faire du commerce, il est parti en Haïti, qui avait gagné son indépendance au début du XVIIIe siècle. Et là, il est mort assez jeune, à 33 ans, quelques mois plus jeune que son père. Il avait fondé une famille, il a des descendants, il a eu 4 enfants en Haïti, qui ont ensuite fondé à leur tour des familles.
Pour terminer, un mot sur Robespierre, qui était le témoin et l'ami du couple Desmoulins. Est-ce qu'il a au moins cherché à éviter leur exécution ou c'était la Révolution avant tout?
Au début de l'année 1794, il a pris à plusieurs reprises la défense de Camille Desmoulins, notamment au club des Jacobins. Et à plusieurs reprises, il a empêché que Camille Desmoulins n'en soit exclu. Et il y a un peu ce modèle républicain antique, qui correspond plus du tout au nôtre, qui peut aller jusqu'au sacrifice des personnes les plus proches. Pour justement la défense de la République.
Mais merci beaucoup Hervé Lewers de nous avoir conté le rêve de République de Camille et Lucie Desmoulins. Je rappelle que la biographie que vous leur avez consacrée est parue aux éditions Fayard.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Dans l'intimité de l'histoire.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus qu'un secret, une vérité ou bien une légende. Vous nous racontez que Jean-Baptiste Bellay, le premier député noir de l'histoire de France, aurait proposé d'ajouter le mot fraternité à la devise de la République. Alors, je ne sais qui croire, moi.
Cette légende colle à la peau de mon personnage du jour, Jean-Baptiste Bellay, alors qu'il n'y a aucune trace de sa réalité. D'ailleurs, il y a bien des incertitudes sur sa vie, mais en tout cas, ce qui correspond à la plus stricte vérité, c'est que Jean-Baptiste Bellay fut le tout premier député noir de l'histoire de France. Et ça, écoutez, avouez que c'est déjà un authentique et beau titre de gloire. Alors, savoir si après la Convention, il a répété avec force « Fraternité, c'est la partie la plus importante de cette devise », c'est bien possible. D'où venait-il ce Jean-Baptiste, dont le nom original aurait été un nom africain, Timbazé? Alors, il serait né vers 1746 sur l'île de Gorée, au Sénégal. Une île qu'il quitte à l'âge de 2 ans sur un bateau négrier. Il est embarqué à Saint-Domingue, où alors on a grand besoin d'esclaves dans les plantations de canne à sucre. Et c'est là qu'il aurait été acheté. Raconté dans sa bouche à la tribune de la Convention le 22 août 1794, voilà ce que ça donne. « Je suis né en Afrique, moi ». Amené dans l'enfance sur le sol de la tyrannie, j'ai par mon travail et mes sueurs conquis une liberté dont je jouis honorablement depuis 30 ans en chérissant ma patrie. Autrement dit, après des années de travail à Saint-Domingue, il a amassé un tout petit pécule, mais un petit pécule qui lui permet d'acheter sa liberté à 17 ans. En 79, on le retrouve sous les ordres de l'amiral Destin, qui commande alors un groupe de 500 hommes, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, un groupe de noirs et de mulâtres libres, qui, avec les unités blanches, vont aller prêter main forte aux blancs dans les colonies insurgées contre le roi d'Angleterre. Vous voyez, donc c'est une troupe très bigarrée, c'est vraiment black, blanc, beurre, mais largement avant la lettre, parce qu'il y a ces mulâtres et ces hommes libres qui vont se battre avec les blancs aux États-Unis contre le roi d'Angleterre. Il se bat d'ailleurs si courageusement qu'il est nommé très vite officier. Et évidemment, on s'imagine, c'est une expérience majeure pour tous ces engagés volontaires de couleur qui commencent à faire jeu égal avec les blancs, qui se battent avec eux, qui éventuellement leur sauvent la vie et qui combattent aussi bien qu'eux. Désormais d'ailleurs, Bailey combat tellement bien qu'il est plus connu sous le nom de Mars. En fait, c'est son dernier surnom, mais Mars, c'est le dieu de la guerre. Et comme il se bat vachement bien, eh bien maintenant, on le surnomme Mars. Fin de la guerre d'indépendance, Bailey s'établit à Saint-Domingue. Il y achète des terres. Il y achète des terres et il va même posséder lui-même quelques esclaves. Et oui, les choses sont pas toujours si faciles que ça. Les très gentils, les très méchants, les esclavagistes et les autres. Et donc, Bailey lui achète des esclaves. Et une fois qu'il est libre et un peu enrichi, eh bien, on a même trace de l'étampage d'une esclave qu'il a achetée. Qu'est-ce que c'est que l'étampage ? Alors, on a cette trace parce qu'on a un document, le 9 juin 1787, par devant M. Bordier Jeune, Bailey revend une certaine Aurore, âgée de 23 ans. L'acte de vente précise qu'elle est étampée. Alors, il y a une marque exactement, Mars. Mars, c'est donc le surnom de Bailey, au Cap. Autrement dit, il a fait marquer cette dame à son nom avec une lame d'argent qu'on passait au feu, hein, pour bien que ça marque bien. Il y a en tout cas eu recours, au moins une fois dans sa vie, il avait une esclave étampée. Mais la Révolution française vient tout chambouler. Bailey participe à différentes émeutes organisées pour revendiquer l'abolition de l'esclavage. Et en 93, sont élus 6 députés, dont la moitié doivent aller en France pour tenter de convaincre la Convention de ratifier la décision d'abolition de l'esclavage. Et c'est donc à ce moment-là que Bailey, Mars, Timbazé est choisi comme député représentant les Noirs et devient le premier député africain de notre histoire. Ces messieurs, ils font un voyage très long, de 4 mois, exténuant. Ils s'arrêtent à New York, on les attend de pied ferme pour les lyncher, parce que évidemment, même ceux qui combattent contre le roi d'Angleterre et qui ont utilisé des ressources mulâtres et noires dans leur combat n'ont pas envie de voir des combattants devenir députés, fût-ce en France. Et on les attend pour les lyncher, donc, hein, arrêtés à Lorient. Ils sont emprisonnés pendant 5 semaines. Et finalement, on retrouve là Camille Desmoulins, puisqu'ils sont libérés par des proches de Danton et qui étaient pour l'abolition, contrairement à Robespierre, qui était beaucoup plus prudent sur ce sujet. Voilà. Donc, vous imaginez cette image extraordinaire que cette ancienne esclave, aux côtés de Mirabeau à la tribune, le 16 pluvieux en 2, 4 février 1794, le premier député noir de l'histoire de France est ovationné, en même temps que les deux autres députés représentant Saint-Domingue, Dufay et Mills, un noir, un blanc, un jaune, en fait un mulâtre, la France vote l'abolition de l'esclavage. Il y a un portrait de lui qui a été, je crois, transféré depuis. Je me demande s'il n'était pas à Versailles. Il est désormais à l'Assemblée nationale parce qu'il est le symbole Bailey de cette époque où l'esclavage venait d'être aboli par la loi républicaine, une décision à laquelle il avait contribué.
Merci beaucoup Clémentine, passionnant votre récit. Et à suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, alors là, je ne contrôle plus rien. Comme dirait le maréchal de Saxe, qui fut, comme vous le savez, général des camps et des armées de Louis XV, une bataille perdue, c'est une bataille qu'on croit perdue. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde le quiz. Allez, c'est parti pour Burn to be Alive. Jean-Luc Lemoyne, à vous la main.
Mais c'est quoi cette mentalité de loser? Ayez
oui,
confiance
mais
en
oui,
vous.
Oui, mais c'est vrai, Stéphane, là.
J'ai baissé les bras.
Là, vous êtes en train de vous laisser dominer, là. Allez-y,
ça,
là.
Reprenez votre destin en main.
Non, mais comment elle cause?
Comment qu'elle cause?
Allez, faites-vous confiance, Stéphane.
Non, mais
sûr
ça me fait de
allez...
la peine de vous voir comme ça, le condor devenir cacatoès, c'est vraiment la dégringolade. Oui.
Le condor, vous l'écrivez comment?
Allez.
Ok. Première question est pour Stéphane. Émile Coué de la Châtaigneraie fut un pharmacien français. Il est le fameux inventeur de...
La méthode Coué.
La méthode Coué. Oui. Voici ma question. Émile Coué a eu comme patient le député communiste Paul Vaillant-Couturier, car ce dernier a été très impressionné par le fait de parler en public. Vrai ou faux ?
Je crois pas
non
du
tout. Plus.
Non,
plus.
Non, vous ne croyez pas ?
Non, j'y crois pas.
On découvre la réponse.
Vous avez gagné.
Mais voyez, vous avez vu juste, Stéphane. Par contre, Émile Coué a participé à la guérison du bégaiement de celui qui allait devenir le futur George VI. À l'époque, ah oui. Il était duc d'York. Une question maintenant pour Clémentine. Fidel Castro avait un chien très dévoué appelé Fido. Encore aujourd'hui, outre-Atlantique, et même ici, un chien appelé Fido, eh ben, c'est un symbole de fidélité. Vrai ou faux ?
Labor et fides. Fido, que le mot fido vienne de fides, fidélité.
Alors, question, qu'on soit bien clair, pour pas qu'il y ait de réclamation après, ouais. c'est savoir
Fidel si... Fidel Castro avait-il un chien nommé Fido ?
Oui, et est-ce que ça vient de... Est-ce qu'il avait déjà un chien qui s'appelait Fido ? Et est-ce que c'est un symbole de fidélité ?
Oui.
Vous pensez oui ? On vérifie.
Vous avez...
perdu !
Désolé, non, c'est pas Fidel Castro, mais Abraham Lincoln qui avait ce chien. Quand ce dernier est élu président de la République, il a été confié à sa famille pour ne pas abîmer les meubles et les tapis de la Maison Blanche. Fido restera dans l'histoire comme un des premiers chiens de président. C'est devenu une tradition après. Et Fido a assisté aux funérailles de son maître et non l'inverse. Allez, question suivante pour Stéphane Bern. Stéphane Bern, c'est facile pour vous puisque vous faites aussi du théâtre.
À moins que vous, quand même. Vous êtes sur scène beaucoup.
Oui, mais quand même. Georges Feydeau, évidemment, maître absolu du vaudeville. On lui doit les pièces, par exemple, du Dindon.
La Dame de chez Maxime.
La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille et Octo d'Amélie, entre autres. Mais quelle pièce est de Feydeau parmi ces trois propositions ? Deux coqs pour une poule, Viens Poupoule, ou La Poule viendra à mon pot ?
Le dernier, non.
Alors, ah oui, oui, ça c'est très masculin. Ça, c'est deux coqs pour une poule alors, et non pas une poule...
Non, Viens Poupoule, c'est une chanson.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a rien à voir avec une pièce de Feydeau. Donc je dis la première.
Deux coqs pour une poule.
Oui, c'est de Feydeau.
Vous semblez sûr de vous ?
Non, mais je dis
ça. Ah oui, j'aime bien ça.
Allez, on vérifie.
Vous avez encore gagné !
Oh là 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 là, c'est un triomphe. Ouais. C'est une comédie en un acte écrite en 1887. Un jour, un de ses admirateurs qui avait écrit une pièce l'a envoyée à Feydeau. Ce dernier lui a dit qu'elle était très mauvaise. Déçu, l'admirateur en colère lui envoie un courrier qui se termine par « Je vous emmerde ». Feydeau lui a répondu « Plus maintenant, j'ai fini de lire votre pièce ». C'est joli, non ?
Ah oui. Bon, allez-y, allez.
Allez, c'est en 1570.
Je vais essayer de sauver l'honneur.
C'est en 1570 que l'on trouve trace pour la première fois dans l'histoire d'un Rothschild. À Francfort, Isaac Bacharach commence à utiliser ce nom, mais que signifie-t-il ? Bouclier rouge, roue glissante ou prairie rare.
C'est...
Rothschild. Shield, c'est plutôt le bouclier. Roth, c'est rouge. Donc, bouclier... Rothschild.
Bouclier rouge, bouclier roue rouge. Glissante ou prairie rare.
Bouclier rouge, je dirais.
C'est peut-être la mauvaise réponse.
Non, c'est la bonne réponse.
On va vérifier.
Vous savez... gagné.
Roth.
Mais
pourquoi c'est rouge.
Roth Shield.
Shield, pourquoi c'est un bouclier.
Pourquoi c'est toujours dans un sens. Toujours elle que vous rattrapez, moi vous ne me rattrapez jamais.
Si,
vous êtes
je vous rattrape.
Irrattrapable, ouais. Irrécupérable.
Ah, c'est ça. Ouais.
Mais tendez la main au plus démuni.
Oui, mais c'est vrai, mais écoutez, je trouve que l'argument de la question à deux. La question linguistique, non, un peu surcotée.
En plus, vous
c'est
qui
normal.
Parlez allemand.
Oui, mais c'est pas.
Franchement.
Je vous rappelle que je m'appelle Kaltenbach et je ne connais rien à l'allemand.
Bien sûr, vous avez passé de. Oh, vous étiez en camp en Allemagne de l'Est pendant vos jeunes années. On sait très bien ce que vous avez fait.
J'ai passé ma vie chez les communistes et j'ai vu Fidel Castro. Ouais. Et c'est pour ça que j'aurais bien dû savoir qu'il n'avait pas un chien qui s'appelait Fido.
Écoutez, comme vous avez été brillants tous les deux.
Moi, j'ai
deux
points.
Vous êtes trop consensuel, ça ne va pas marcher, mais pas du tout.
Mais ça va marcher pour votre carrière.
Il faut créer des clivages.
Ça peut aider, il paraît.
Ah oui, vous savez qui dirige maintenant.
Oh, ça va balancer là. Allez, la question qui va vous départager. En 1794, l'abbé Grégoire est touche à foin. Il rend un rapport qui aurait sûrement également désespéré Alain Finkielkraut. Il a constaté que peu de départements français avaient pour langue exclusive le français, justement. Il y en avait combien sur 83 des départements qui ne parlaient que français ? Évidemment,
moi,
le plus proche va gagner.
10, oui. J'aurais dit 10 aussi. Oui,
oh, mais là, vous êtes trop...
On est trop en dessous.
Non, c'est pas ça, mais vous dites la même réponse.
Oui, donc... mais c'est ce que j'aurais dit. Je pense que y a
là,
pratiquement...
c'est l'école des fans.
Quand on arrivait à Lyon, j'ai raconté ça l'autre jour, qui arrive à Lyon et qui dit, mais je ne comprenais pas le patois
11,
local.
Alors.
Bon, ben moi, je vais dire 14.
Vous montez encore un peu, Stéphane.
Non. Alors, 17.
Non,
23.
Vous montez un tout petit peu. Elle a dit 14.
Alors je dis 13. 12.
Non, montez.
13.
Mais non. 16.
Elle a dit 14.
18.
Oh. 22. On part de trop loin avec vous. Elle a dit 14, montez un tout petit
15.
Peu.
15.
Il a dit 15, je crois.
Ah non. Là,
j'ai gagné.
Non,
bah
non,
c'est pas ça. Mais il m'a expliqué qu'il fallait penser carrière.
Je peux pas quand même, ça peut pas être aussi visible, si vous voulez. Hein, faut quand même faire ça de façon un peu subtile.
Je suis
alors, on non, vous c'est a repêché, là, avec la canne
oui,
à pêche.
Oui, bon, bah, voilà. Bon, les auditeurs ont bien compris que c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Je pense qu'il était 15.
Mais c'est ça, mais il m'a fait comprendre que pour ma carrière, c'était mieux de faire
gagner lui. Bon, moi, je veux bien aussi. Bravo Stéphane. Non, bravo, belle victoire. Alors,
c'était 15 à la fin du 18e siècle. L'élite européenne parle le français, mais pas les Français. Enfin, ouais. Seuls 3 millions sur 28. L'école va ensuite mener une guerre sans pitié aux langues régionales à partir de la fin du 19e.
Oui, la Troisième République, là, on oblige tout le monde à parler le français de France.
Et c'est comme ça qu'on a oublié de...
les cultures régionales.
De savoir traduire Rothschild.
Oui. Rothschild.
Merci. Non, mais voilà, vous
en
avez
tout cas,
gagné.
Magnifique victoire de Stéphane.
Non, j'ai pas gagné.
Si. C'était très très beau.
Mais au revoir, modèle. Clémentine. Sans rancune, à demain.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Et je ne suis pas seul, évidemment. Ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez et notre guide culinaire vivant, et bon vivant d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui, Olivier Pouls.
Il est là.
Il est là, ah, mais il est là. Oui, bien sûr.
En chair et en os.
Ah, bah, oui, je vois. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Et c'est bien pour ça qu'on les réunit cet après-midi. C'est nos trois personnages du jour qui ont fait la République. Après le couple de révolutionnaires Camille et Lucie Desmoulins, je vous raconte celui qui a proclamé la Troisième République un 4 septembre.
Un 4 septembre, comme la station de métro.
Léon Gambetta.
Bah, Gambetta, comme la station de métro aussi.
Oui, voilà. Quant à vous, Jean-Luc Lemoine, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, le vivant de l'étape.
Ah ça oui, il est vivant hein, et ça s'entend. Rappelez-vous, quand quelqu'un est devant votre porte et qu'il se met à crier ça...
La République, c'est moi !
Vous avez la possibilité d'ouvrir ou de laisser la porte fermée. Je vous raconte celui qui l'ouvre, et je ne parle pas de la porte, Jean-Luc Mélenchon.
Mais il n'a pas de station de métro encore, lui.
Ah, ça ne serait tardé.
Il vaut mieux mourir pour avoir une station de métro. Ce sera juste avant 17h30, et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, deux êtres qui l'ouvrent aussi. Je ne parle pas de la porte, hein. Pour notre plus grand bonheur, David Castello-Lopez et Olivier Pouls. David, vous nous racontez les origines de la coupe mulet.
Voilà, la coupe mulet qui consiste à se laisser pousser les cheveux assez longs sur la nuque et de les garder relativement courts sur le devant. Ça a été considéré pendant très longtemps comme très laid. Et aujourd'hui,
ça revient.
Il y a des gens qui ont été brûlés pour ça, non?
En tout cas, ils ont.
Et c'est pas un fashion faux pas, non?
Ce n'est plus un fashion faux pas. Enfin, c'est pas forcément un fashion faux pas. Je pense que n'importe qui, si encore une fois, si on faisait une coupe mulet, ce serait un fashion faux pas. Ouais. Il faut avoir la gueule, le style qui va avec.
Bah, le métier qui va avec aussi.
Et le métier qui va avec.
Parce que si c'est ton banquier qui est avec les coupes mulet, t'es pas bien.
Exactement.
Avec vous, Olivier Pouls, dans Mes aïeux, quelle époque, vous nous ramenez aujourd'hui au temps de Louis XIV pour découvrir son potager et non pas son pote âgé. Parce que ça, pour ça, il en avait beaucoup.
Oui, son potager qui était probablement le plus incroyable que l'histoire ait connu. Je ne pense pas qu'on l'ait égalé, mais un potager qu'on peut encore aujourd'hui visiter d'ailleurs.
À Versailles, bien sûr.
Ouais, il est un peu plus petit que ce qu'était l'original, mais en tout cas, on se rend bien compte de la richesse incroyable de cet endroit.
Eh bien, rendez-vous en fin d'émission, mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il fut l'un des plus grands défenseurs de la République, la troisième pour être très précis. Ses idées et son éloquence sont restées dans les mémoires et ont marqué l'histoire. Montons à la tribune avec celui qui peut se targuer d'avoir des rues, des places, des stades à son nom partout en France. Je vous raconte Léon Gambetta. Nous sommes le 4 septembre 1870 à Paris. Léon Gambetta a 32 ans. Il possède une carrure imposante, une barbe noire fournie et surtout une voix qui force le respect alors qu'il prononce solennellement un discours historique. Le député a mené devant l'hôtel de ville les Parisiens énervés et apeurés par la guerre contre la Prusse. Voici ses paroles.
Le peuple a devancé la chambre qui hésitait. Pour sauver la patrie en danger, il a demandé la République. Elle est proclamée et cette révolution est faite au nom du droit et du salut public.
Gambetta, que ses opposants aiment appeler Grand Bêta, est ovationné. La Troisième République est née. Elle apporte avec elle un souffle d'espoir, car deux jours auparavant, le 2 septembre, Napoléon III a été fait prisonnier à Sedan. Son armée a subi une débâcle face aux troupes prussiennes. Avant d'instaurer durablement la République, Gambetta et ses collègues députés doivent parer au plus pressé la guerre qui ravage la France. Un gouvernement de défense nationale est créé. Il faut agir vite. Le 19 septembre, Paris est assiégé par les troupes de Bismarck. Une décision est prise d'envoyer un homme en zone encore libre pour coordonner les opérations militaires. Et cet homme à la témérité reconnue, c'est Léon Gambetta. Mais comment rejoindre Tours, le point de chute ? Les lignes de train sont bloquées, les routes barrées et surveillées par l'ennemi. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, l'unique solution est que Gambetta s'embarque à bord d'un ballon. Une montgolfière, oui. L'opération est risquée, elle pourrait même s'avérer mortelle pour le jeune Gambetta. Avant lui, deux essais ont eu lieu. Le premier ballon n'a pas réussi à prendre son envol et le second a été canardé et détruit par les Prussiens. Pourtant, Léon Gambetta, patriote jusqu'au bout des bottes, se présente le 7 octobre sur la place Saint-Pierre de Montmartre. Eugène Spuller, son fidèle collaborateur, est également de l'aventure. Le destin de la France repose sur leurs épaules. 11h30, il est enfin l'heure de partir. Gambetta s'est couvert la tête d'une casquette et des épaules de fourrure. Les deux ballons décollent. Mais au moment de passer au-dessus des lignes prussiennes, le vent s'arrête de souffler et au grand dam de ses passagers, les montgolfières amorcent leur descente. Il se dit que les troupes prussiennes les auraient alors mitraillées. Gambetta aurait même esquivé une balle in extremis. Après avoir lâché du lest, les ballons reprennent de la hauteur et terminent leur traversée sans difficulté. Gambetta écrit alors une note. Pas de Prussiens dans la Somme. De toutes parts, on se lève en masse. Le gouvernement de défense nationale est partout acclamé. Parfois, Gambetta en fait et en écrit un peu trop, mais c'est sa façon à lui de galvaniser le peuple. Il s'autoproclame alors ministre de la guerre et va tout faire pour redresser le pays. Il écrit à chaque département. La République fait appel au concours de tous. Il pratique la guerre à outrance, il s'évertue à lever des troupes, à acheter des armes. Ses opposants parleront même de gouvernement de dépenses nationales. Mais les efforts du jeune politique n'ont pas le succès escompté. La France se bat avec des années de retard. En face, les Prussiens sont aguerris, organisés, diablement équipés de mitrailleuses. Après 16 semaines, Gambetta démissionne. Il reviendra bientôt sur le devant de la scène. Lui, dont le parcours est jalonné de défis. Depuis son enfance. Léon Michel Gambetta voit le jour le 2 avril 1838 à Cahors. Son père est un immigré italien, sa mère une fille de pharmacien. Le couple tient une boutique, le Bazar Génois. À l'école, le jeune Léon, qui a perdu l'œil droit, s'avère être un élève turbulent mais brillant en lettres. Il développe très tôt un sens aigu pour la politique. Léon a 10 ans à peine quand Napoléon est élu. Voilà ce qu'il écrit à son père. Il paraît que Napoléon est nommé, quoiqu'il soit bête comme une autruche et qu'il parle un français prussien, hottentot et hongrois. Et même, s'il y a un homme à la chambre qui entend toutes ces langues, il sera en peine de comprendre deux mots d'un discours de Napoléon. Diplômé en droit en 1861, Léon Gambetta plaide pendant 5 ans partout en France, Paris, Cholet, Strasbourg, Nancy. Mais une plaidoirie va le révéler à la France entière et montrer son amour inconditionnel pour la République. En 1868, il défend Charles de Lescluze, un militant républicain. Il a voulu soulever une souscription pour ériger un monument en hommage au député Baudin, mort sur une barricade en 1851, car il défendait la République. Lors du procès, Léon Gambetta est tel un lion qui rugit et attaque sans détour le pouvoir en place, l'Empire. Sa voix tonne et résonne dans toute la salle d'audience.
Écoutez, voilà 17 ans que vous êtes les maîtres absolus discrétionnaires de la France. Chaque année, ce sera l'anniversaire de nos morts, jusqu'au jour où le pays redevenu le maître vous imposera la grande expiation nationale au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.
Léon Gambetta est vidé, mais satisfait. Car l'auditoire le couvre d'applaudissements. Son client sera certes condamné à 6 mois de prison et 2000 francs d'amende, mais Gambetta acquiert une solide notoriété. Sa plaidoirie est même reproduite en plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Léon Gambetta inquiète jusqu'au personnage le plus puissant du pays, Napoléon III. Ce Gambetta a vraiment beaucoup de talent. N'y aurait-il pas un moyen de le calmer, aurait-il même formulé ? Le calmer ? Jamais. Bien au contraire. Un an plus tard, Léon Gambetta a 31 ans et est élu député à Marseille. L'un de ses discours de campagne, à Belleville, dans le nord de Paris, est une référence. Il jette les bases des revendications républicaines des 50 prochaines années. Gambetta exige l'application stricte du suffrage universel, que la liberté individuelle soit garantie, tout comme la liberté de réunion, de presse et d'association. Il se dit déterminé à séparer l'Église de l'État et défend bec et ongles une instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire. Pendant 10 ans, Léon Gambetta n'a de cesse de défendre ses idées face à des députés monarchistes et bonapartistes coriaces et parfois même face à des députés républicains. Mais ce combat politique, l'homme est persuadé qu'il doit se mener dans le dialogue, avec des arguments construits qu'il veut diffuser jusque dans les campagnes. Alors il entreprend son tour de France. Léon Gambetta devient le VRP de ses propres idées. On dit de lui qu'il est le commis voyageur de la République. Il parcourt tout le territoire, veut convaincre tous les citoyens, les bourgeois comme les paysans ou les ouvriers. Il organise des banquets républicains. Son objectif est de promouvoir un mode de gouvernement délibératif. Il fait tout pour éveiller les consciences politiques. À Grenoble, Gambetta prédit même l'avènement de couches nouvelles. Il a tout simplement vu avant l'heure l'arrivée des classes moyennes dans la société. Paris réussit. Aux élections législatives de 1876, les Républicains sont majoritaires à la Chambre des députés. Les années suivantes, Léon Gambetta est nommé président de la Commission du budget, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil. Beaucoup prédisent alors à ce jeune loup une carrière au sommet de l'État. Mais il décède précipitamment en 1882 à l'âge de 44 ans. Si Gambetta est mort, la République française, elle, est plus vivante que jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Léon Gambetta, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui lui consacre une passionnante biographie. Bonjour Gérard Ringer.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Gambetta, une biographie magistrale du père de la Troisième République aux éditions Perrin. Mais pourtant, si en France on trouve des villes où il y a des rues, des boulevards qui portent le nom, on a tendance à oublier que Gambetta fut le père de la Troisième République. Comment vous l'expliquez ?
D'abord parce que le temps fait son œuvre et que le 19e siècle s'éloigne de nous. Ensuite, parce que autant l'homme était le héros numéro un de la République jusqu'en 1920, après la guerre de 14, parce que la gauche que représentait Gambetta était au pouvoir et elle était en même temps patriote. Après 1920, la gauche devient pacifiste et on passe à une autre période et on oublie un peu Gambetta. Et c'est vrai que les grandes lois auxquelles vous avez fait allusion de la Troisième République ont été passées sous Jules Ferry, avec l'appui de Gambetta, mais Jules Ferry était président du Conseil pour faire passer les lois de 81 sur l'école et sur les libertés de réunion et de presse.
Jean-Luc. C'était quoi, en fait, la République idéale de Léon Gambetta, celle qu'il a voulu construire ?
D'abord, une République sans violence. Il ne voulait pas qu'elle naisse dans le sang. Et c'est vrai que le 4 septembre, il n'y a pas eu une goutte de sang versée à Paris. La République a été proclamée sans la moindre goutte de sang. Ensuite, fondée naturellement sur le suffrage universel. Une République où le peuple puisse agir au travers d'une assemblée représentative, mais un pouvoir exécutif quand même assez fort. Et ça, il n'a pas toujours été compris à son époque, parce que le pouvoir exécutif fort, c'était l'Empire, et on n'en voulait pas, sans compter que beaucoup de républicains se méfiaient de Gambetta et d'un pouvoir qu'ils estimaient pouvoir être personnel.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même les grandes lois de la République promulguées au temps de Gambetta, celles qui...
Les grandes lois, c'est les lois sur la liberté de la presse et de réunion. Ensuite, ce sont les lois scolaires, lois sur la gratuité, la laïcité et l'obligation scolaire. Les autres sont passées après la mort de Gambetta, 1901, la loi sur les associations, et 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État.
Avant de faire carrière en politique, Gambetta défendait déjà la République, comme lors de sa célèbre plaidoirie de 1868. Comment est-ce qu'il a forgé ses idéaux républicains ? C'est le Second Empire qu'il a combattu, là. À aucun moment il s'est laissé prendre avec... Même l'Empire libéral ne lui plaisait
non,
pas.
Non. Là-dessus, il y avait peut-être un héritage familial favorable à la République. Son père était italien et voulait l'unité italienne. Sa mère était plutôt à gauche. Et ensuite, à Paris, quand il fait ses études de droit, il fréquente les cafés où les opposants, qu'ils soient journalistes ou avocats, sont nombreux. Avocats ou candidats à l'avocature sont nombreux. Mmh. Donc, il a toujours eu des idées républicaines.
Vous l'avez rappelé, en plus d'être un fervent républicain, Gambetta était un ardent patriote. Et il l'a montré d'ailleurs pendant la guerre franco-prussienne. C'était quoi un vrai patriote pour lui ?
C'est celui qui place la patrie au-dessus de toutes les contingences politiques. Quand l'Empire déclare la guerre à la Prusse, Gambetta est derrière l'Empire et il le dit publiquement. On va leur foutre la pâtée. Ça n'a pas été le cas. Même si l'empereur va laver ses péchés dans l'eau du Rhin, eh bien tant mieux, on gagnera après. Donc ça passe avant tout changement de régime et toute considération.
Le 4 septembre 1870, en proclamant la République depuis le balcon de l'hôtel de ville de Paris, Gambetta mettait fin à près d'un siècle d'instabilité politique. Pourtant, la toute jeune République, 3e République, a failli vaciller à ses débuts. Parce que, d'abord, il n'y avait pas forcément la majorité au Parlement, il a fallu attendre longtemps. Il y avait les bonapartistes, il y avait les monarchistes, on parlait d'une restauration du comte de Chambord, et il y avait les orléanistes aussi. Il avait beaucoup d'ennemis politiques, Léon Gambetta. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le tableau ?
Oui, en 1870, aux élections février, les Républicains sont 200, alors que les oppositions monarchistes et bonapartistes sont plus de 400. Mais à chaque élection partielle, les Républicains vont gagner des sièges. Et ils vont gagner, en 1876, les élections générales. Gambetta a tout fait pour ça. Il a parcouru la France dans tous les sens. Il a proclamé des discours célèbres où on parle des couches sociales nouvelles. Et ensuite, après avoir gagné l'Assemblée nationale, il se bat pour gagner le Sénat et la présidence de la République qui revient à Jules Grévy. En 1879, tous les organes de gouvernement sont républicains. Jean-Luc ?
Alors, on l'a vu, hein, ce 4 septembre 1870 fait date dans l'histoire de France. Mais la question, c'est pourquoi on ne commémore pas aujourd'hui ? Bon, il y a certes une station de métro, il y a une rue, mais pourquoi on ne commémore pas plus cette date ?
On ne commémore aucune date de création de la République en France, ni le 21 septembre 92, ni le 24 février 1848. Le seul qui tenait à faire une manifestation, ça a été le général de Gaulle, qui, place de la République, le 4 septembre 1958, présente la Constitution la 5e. Et Emmanuel Macron a fait allusion le 4 septembre 2020 pour le 150e anniversaire de la naissance de la 3e République. Mais on ne commémore pas les républiques en France. On est à la 5e, certains veulent déjà passer à la 6e.
Gambetta meurt prématurément à l'âge de 44 ans. Ce jour-là, on peut dire que la 3e République s'est trouvée orpheline. Quelles ont été les réactions dans le pays ?
Les réactions ont été très touchantes et très vives, notamment chez les paysans. Parce que Gambetta savait s'adresser à eux, il les a amenés à la République et beaucoup dans la paysannerie vouaient un véritable culte à Gambetta. Les petits bourgeois aussi, la grande bourgeoisie beaucoup moins, mais ça a été un traumatisme effectivement pour le pays de voir un de ses leaders mourir aussi jeune. Il est mort à 44 ans d'une péritonite. Donc là, il y a eu vraiment un deuil national. C'est les premières obsèques nationales, d'ailleurs, qui ont existé en France.
Mais merci beaucoup, Gérard Ringer, de nous avoir raconté le père de la 3e République. Et je rappelle que votre biographie Gambetta est parue chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit trois personnages qui ont fait la République. Après Camille et Lucie Desmoulins et Léon Gambetta, Vous nous racontez Jean-Luc, un autre Jean-Luc. Vous êtes le chroniqueur et lui, il est la République.
Oui Stéphane, car vous êtes bien gentil avec vos Desmoulins et votre Léon Gambetta que vous présentez comme étant la République, mais jusqu'à preuve du contraire...
La République, c'est moi !
Voilà, donc fin du débat, on se retrouve demain pour un nouveau portrait. Merci. Ben quoi, vous avez pas entendu ?
La République, c'est moi !
Enfin c'est lui, pas moi, même si je pourrais y prétendre, hein, car si vous saviez le nombre de tweets énervés, voire insultants que je reçois chaque année... Juste parce que des gens un peu mous du bulbe ont confondu mon compte avec celui de Jean-Luc Mélenchon.
Ah, c'est vrai,
en permanence. Ah, les gens s'embêtent pas, hein. Ils voient un Jean-Luc, ils lisent pas la suite. Un jour, j'ai reçu un message un matin me disant « Oui, de toute façon, arrêtez de faire semblant, vous, Marine Le Pen, c'est pareil, vous me dégoûtez. » Quand tu viens juste de te réveiller, ça t'agresse un petit peu. Oui. Surtout qu'à part avoir un peu bavé sur ton oreiller, t'avais rien fait de très critiquable pendant la nuit. Mais je vous rassure, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, hein, cette méprise avec Mélenchon. Le reste du temps, on me confond avec Jean-Luc Lahaye. Ce qui est beaucoup plus valorisant. Prénom à la con. Donc, c'est le 16 octobre 2018 que le fondateur et leader de la France Insoumise a clamé haut et fort, et sans doute avec pas mal de postillons.
Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
Et oui, ce jour-là a eu lieu une perquisition des locaux du parti dans le cadre d'une enquête judiciaire. Jean-Luc Mélenchon, alors président du groupe LFI à l'Assemblée, est bloqué à l'extérieur par des policiers. Et ça l'a fait dégoupiller. Vous allez me dire, en même temps, Jean-Luc Mélenchon qui s'énerve ? Bizarre. C'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il est atteint de surdité partielle. Non. Ouais, il l'a confié en 2015. Du coup, quand nous, on entend un homme éructer, lui, il entend peut-être...
Vous êtes des policiers républicains ! La République, c'est moi !
Eh bah oui,
il y a le jazz en plus de sa surdité.
Il a une ambiance lounge dans sa tête. Bon, il doit avoir aussi des problèmes de myopie, car quand tu vois les images, il est à 2 cm du mec qui l'engueule. Hein. 2 ans plus tard, tu reprends les mêmes images et tu dis « Le Covid, c'est moi !» C'était pareil. Conséquence de son problème d'oreille, en tout cas, il n'entend pas les gens arriver. Et il les découvre quand ils sont juste à côté de lui. Ce qui fait qu'il prend souvent ça comme une agression. Alors, pourquoi, lors de cette perquisition, Jean-Luc Mélenchon vocifère-t-il « La République, c'est moi ?» 3 propositions. 1. Parce qu'il tient un stand de churros, place de la République. 2. Parce qu'il s'appelle Jean-Luc, et que bon, soyons honnêtes, ce sont les Jean-Luc qui font la France. 3. Parce qu'il est à l'époque député.
3. Il est député. Ah
oui. D'ailleurs, c'est dans la suite de la phrase, il le dit même. Ouais.
C'était pour voir si vous suiviez. On la réécoute, il le dit en effet.
C'est moi qui suis parlementaire.
Ouais, t'énerve pas non plus. Hein. Bon, si on veut pinailler, la République c'est lui en partie. Il y a environ 600 000 élus en France. Donc si on veut être précis, la République c'est lui, attendez je vais faire une petite division, environ 0,00167%. Mais comment en est-il arrivé à ce pourcentage aussi impressionnant ? Jean-Luc Mélenchon est né en 1951 à Tanger au Maroc, où il passe son enfance. Mais à 9 ans, ses parents divorcent et en 62, alors que Richard Anthony entend siffler le train... Et bah, le petit Jean-Luc, lui, il entend retentir la sirène du paquebot qu'il ramène en France avec sa mère. Tous deux s'installent dans le Jura, à Lons-le-Saunier, la ville natale de Rouget de Lille, l'auteur de la Marseillaise, The Hymne Révolutionnaire, comme par hasard. Au lycée, Jean-Luc Mélenchon est un des meneurs du mouvement lycéen de la ville lors des événements de mai 68. Pour info, sachez que dans le Jura, les étudiants contestataires ne lançaient pas des pavés sur la police. Ils n'en avaient pas, mais ils lançaient des comtés et des morbiers. Je sais que c'est faux, mais j'aimais bien l'idée. En 69, Jean-Luc Mélenchon profite de la fac pour rejoindre l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France. Puis il s'engage politiquement en ralliant l'Organisation Internationale Communiste. Virage socialiste en 77, dont il prend la tête de la Fédération de l'Essonne en 81. Élu en 86 à l'âge de 35 ans, il est alors le sénateur le plus jeune de France. Impressionnant. Un Jean-Luc, quoi. Et ce n'est pas fini. En 2008, il crée le Front de Gauche sous la bannière duquel il se présente à la présidentielle de 2012. Malgré sa gouaille et son éloquence, il finit seulement quatrième à 11%. Et le premier ici qui dit « Un Jean-Luc, quoi ?» Je lui pète les dents avec mon micro, que ce soit bien clair. En 2016, il fonde la France Insoumise et se représente à la présidentielle de 2017. À nouveau quatrième, derrière François Fillon. Ce qui est injuste, car il porte un projet fort et un costume beaucoup plus abordable. Il veut transformer la société en profondeur, en proposant notamment une 6e République. La 6e République, c'est lui, à 100%. Il est à l'époque le candidat le plus moderne. Il a une chaîne YouTube très regardée, mais surtout, il apparaît en simultané dans plusieurs meetings, vous vous souvenez ? Sous forme d'hologramme, on se souvient de ces images.
Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir.
Ah non, ça c'est la princesse Leia dans Star Wars. Mais bon, vous avez l'idée globale. Mais pour moi, l'année de sa consécration, c'est 2019. Car en 2019, Jean-Luc Mélenchon est nommé professeur honoraire à l'Université nationale de Lanús. Lanús en Argentine.
Oui,
évidemment, c'est
une
ville.
Du monde. Hein.
Mais... non mais quand je dis Lanús en Argentine, je parle pas d'un guide du retard des Anus du monde entier. Hein, soyons raisonnables
ce
quand même.
Ce serait bien, ça manque. Faudrait c'est vrai. Dire à Gavier.
Vous,
Gavier.
Vous voudriez être contributeur. Et puis bien sûr, il y a l'élection présidentielle de 2022. Jean-Luc étonne encore tout le monde en faisant un meeting immersif et olfactif. Une première mondiale. Alors le problème des premières mondiales, c'est que tu peux le voir sous deux angles. Le positif, tu dis que t'es un pionnier. Le négatif, tu dis que si personne ne l'a fait avant, c'est peut-être parce que c'était une idée à la con. Enfin, sauf si tu veux devenir président du Futuroscope à Poitiers. Un meeting olfactif, franchement. Il termine troisième du premier tour avec 22% des voix. Mais remarquons tout de même qu'à chaque élection présidentielle, il progresse. J'ai fait une brève extrapolation statistique et normalement, en 2042, il devrait être élu président. On pourra alors enfin parler de Mélenchonie. Mais Jean-Luc Mélenchon lui-même n'est pas sûr de se présenter en 2027. Même, il faut le savoir, le nom de domaine internet Mélenchon2027.fr est déjà déposé. Par qui ? On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Catenins2027.fr et Ruffin2027 ne sont pas déposés. Mais que Corbière2027.fr, et c'est véridique, c'est déjà déposé. Par qui ? On ne sait pas. Voilà, j'ai fini. La République, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon, mais l'arrêt de ma chronique, c'est moi !
À demain.
À demain, oui.
Merci Jean-Luc. Il y a plein de Jean-Luc qui ont du talent, hein, quand même.
C'est ouais. Ça, Jean-Luc Lahaye.
Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc
oui, aussi.
C'est
oui.
Bizarre qu'on fait Jean-Luc Reichmann.
Reichmann.
Oui. Jean-Luc Delarue, mais il n'est plus là.
Plus, oh. Moins,
voilà. Jean-Luc Bidot. Vous vous souvenez de Jean-Luc Bidot à la Transbordel Bordel. Oui, il faisait des tours de noyer son appendice.
Allez, Jean-Luc, quand même.
Ah, sacré Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont fait la République pour retrouver deux garçons libres et égaux qui font leur révolution tous les jours à leur façon. David Cassel-Lopez et Olivier Pouls. Et comme chaque jour désormais, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle gastronomie avec vous, Olivier Pouls. Et on remonte à l'époque de Louis XIV pour aller inspecter son potager avec la Quintini.
Oui, vous allez voir qu'on n'a pas fini d'en faire le tour.
Ah oui, c'est très grand.
Ah, puis surtout, je peux vous dire que des variétés de fruits, de légumes et d'herbes, il y a vraiment de quoi faire.
Ah, très bien. Et tout de suite, David Cassel-Lopez, vous nous parlez des origines d'une mode qui, je pensais qu'elle avait passé de mode, mais non, la coupe mulet.
Quand j'ai commencé à m'intéresser de façon professionnelle à l'origine des choses, je me disais que chaque histoire que j'allais raconter serait différente. Et puis, au bout de quelques centaines de chroniques, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait de grandes catégories d'histoire. Il y a les sports inventés au 19e siècle par les Anglais, hein, comme le tennis, le water polo, le rugby, le football. Il y a les modes éphémères incompréhensibles, comme le hand spinner ou les pins. Et puis, il y a une quantité incroyable d'histoires qu'on pourrait appeler les montagnes russes du cool. Des choses qui sont super cool, puis qui cessent de l'être, puis qui sont à nouveau cool. Le sac banane. La moustache, le polaroïd, le velcro, les pantalons taille haute, les pantalons taille basse, les pantalons taille moyenne. Et bien sûr, mon sujet du jour, le mulet. Le mulet, c'est une coupe de cheveux qu'on associe plutôt aux hommes, même s'il y a des femmes qui en portent aussi, et qui consiste donc à avoir les cheveux beaucoup plus longs derrière que devant. C'est une coupe ancestrale qu'on trouve déjà dans l'Antiquité grecque et chez les peuples barbares qui ont envahi l'Empire romain. Et au départ, c'est une coupe de soldats, peut-être parce que pour les soldats, le mulet pouvait avoir une certaine utilité. Les cheveux relativement courts devant, ça permet d'y voir clair pour tuer les gens. Et les cheveux longs derrière, ils protègent la nuque du froid en hiver et du soleil en été. On la retrouve, cette coupe mulet, dans plein de peuples à travers le monde, dans l'histoire, les Vikings, les Celtes, les Amérindiens, même si c'est, bien sûr, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. L'histoire récente du mulet, elle commence avec un homme qui s'appelle David Bowie. En 1972, David Bowie, il sort son album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Et il dévoile à cette occasion un look inédit avec un mulet
orange vif. Et en gros, le mulet contemporain, si vous voulez, ça vient de lui. David Bowie, il a choisi la coupe mulet pour Ziggy Stardust parce que Ziggy, c'est un personnage androgyne. Et le mulet, ça va bien avec l'androgynie. Court devant comme un garçon, long derrière comme une fille. Dans les années 80 d'ailleurs, c'est souvent ça que ça dénote. George Michael, par exemple, androgyne, il avait un mulet. Rod Stewart, androgyne aussi, mulet. Et puis, par une sorte de glissement étonnant, c'est devenu une coupe de gros mec viril, sa race, pas du tout androgyne. Chuck Norris avait un mulet et vous avisez pas de dire que Chuck Norris est androgyne, sinon il vous pète bien votre gueule comme il faut. MacGyver avait un mulet, Jean-Claude Van Damme avait un mulet. Aucune de ces personnes n'est androgyne. Et c'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs, que la coupe mulet est tombée en désuétude dans les années 90, parce que la testostérone à gogo, c'est un chemin assez balisé vers la beaufrie, et que la beaufrie, c'est l'antithèse du cool. Donc, le mulet a connu une véritable traversée du désert à partir des années 90. Et puis, comme le sac banane ou le pâté en croûte avant lui, le mulet est sorti du désert. Il y a aujourd'hui des icônes du cool, comme Rihanna ou Billie Eilish qui portent le mulet. Il y a des rappeurs comme Lil Nas X. Bref, c'est un retour qui paraissait impossible il y a quelques années et qui pourtant est là. Alors, il reste quand même une petite question. Pourquoi ça s'appelle la coupe mulet? Oui. C'est une question simple, mais la vérité, c'est que personne n'a de réponse certaine. La théorie la plus généralement admise, c'est que ça vient d'une chanson des Beastie Boys de 1994 qui s'appelle Mullet Head et qui fait comme ça. On comprend rien parce qu'ils hurlent, mais apparemment, ils décrivent cette coupe de cheveux dans la chanson et ils l'associent à des personnages qu'ils appellent les mullet heads, ce qui veut dire les idiots. Donc voilà, ça viendrait de ça. Ça laisse quand même encore une question qui est si le mot date de 1994, alors comment on appelait la coupe mulet avant 1994 Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et il n'est pas du tout impossible qu'elle ait tout simplement pas eu de nom. Voilà, c'est comme ça.
Est-ce que vous savez qu'il existe des festivals de mulets?
Non.
Où les gens se rendent tous avec une coupe mulet?
Ah, oui. Ah non, ça je savais pas, ça doit être un endroit très bien. Mais je doute que ce soit le comble du fashion. Vous voyez, je pense que
Ils sont très second degré, ils se costument et tout, mais c'est très festif.
C'est festif, ouais. C'est festif, mais c'est pas niveau fashion week.
Et pour les footeux, la plus belle coupe mulet, c'était Chris Waddle.
Mais je me souviens parfaitement de Chris Waddle à l'OM.
Exactement.
À l'époque de Jean-Pierre Papin.
Merci David. Ne vous énervez pas. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Celle des faces de la cour de Versailles au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Le roi Soleil avait créé un incroyable potager qui existe encore aujourd'hui, Olivier.
Oui, vous l'avez dit, rien n'était trop beau pour Louis XIV, y compris ce qui était servi à sa table. Ainsi, le roi, qui l'on doit d'avoir fait d'un modeste relais de chasse ce château incroyable qu'est Versailles, exigea dès 1679 que soit installé sur place un potager digne de son faste. Et vous allez voir qu'on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il faut dire que l'époque est un tournant dans les habitudes gastronomiques en France. Les grands conquistadors ont ramené de leurs expéditions en Amérique une multitude de fruits et légumes nouveaux que le roi tient absolument à avoir à portée de sa main. Alors c'est un grand jardinier de génie, Jean-Baptiste de la Quintigny, que le roi Soleil confie la tâche d'ériger ce potager qui fut terminé en 1683, soit après 4 années de travaux. Il faudra assécher les marais entourant le château, amener de la terre de qualité, ériger des murets et planter plus de 3 hectares de légumes, fruits, arbres ou encore herbes aromatiques. Sans aucun doute, le plus fastueux et impressionnant des potagers que l'on n'ait jamais vu dans l'histoire.
Mais alors Olivier, qu'est-ce qu'on trouve dans ce potager ?
Eh bien tout ce dont un cuisinier de l'époque en tout cas peut rêver, des légumes à foison comme les asperges, les petits pois qui paraît-il étaient les légumes favoris du roi, les artichauts, les concombres, les fèves, les haricots, les lentilles, les salades ou encore tous les raves, des fruits comme des melons, des framboises, des fraises, des arbres fruitiers par centaines, dont de très nombreux poiriers. Alors le roi, là aussi, était très friand de ce fruit. Des poires beurrées, cuisses madame, bon chrétien, rousselet, roubine, même des figuiers, des pommiers, des cerisiers. Au total, 16 carreaux dans lesquels sont répartis ces légumes, ces fruits. Et lorsque le roi déguste, découvre un nouveau produit à l'époque, il l'apprécie, il charge immédiatement la Quintigny de le cultiver dans son potager, ce qui ne va évidemment pas sans certaines difficultés.
Oui, ne serait-ce qu'à cause du climat qui ne permet pas de tout cultiver en région parisienne avec le même succès.
Exactement, en théorie en tout cas, mais la Quintigny est assez géniale et il se montre très astucieux. Il réchauffe par exemple les sols avec des fumiers frais, utilise des cloches, sorte de serres en verre et optimise les expositions. Des techniques qui permettent de cultiver certaines variétés de fruits ou de légumes et de s'affranchir parfois des saisons. On peut ainsi déguster par exemple des asperges dès le mois de février à la table du roi, il les adorait aussi. Des fraises à la fin mars ou des cerises en mai. Louis XIV est d'ailleurs très intéressé par ce qui se passe dans son potager. Il y descend régulièrement, il arpente les chemins qui délimitent les parcelles et on peut même le voir de temps en temps sous évidemment les ordres ou les conseils de la Quintigny. Tailler des arbres. Il faisait par ailleurs visiter les lieux très fièrement à tous ses hôtes de marque de l'époque. Il faut savoir que pas moins de 30 jardiniers s'affairaient à temps plein dans ce potager incroyable qui fournissait quotidiennement les cuisines en légumes et fruits frais. Il faut dire qu'il fallait de la marchandise à l'époque pour élaborer les fastueux repas qui se déclinaient en de très nombreux services.
Alors ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce potager, Olivier, existe toujours.
Absolument, il est classé monument historique depuis 1926. Il est ouvert au public depuis 1991. Il est devenu un conservatoire des techniques de culture et de taille. On y trouve encore 450 variétés de fruits et légumes, c'est vous dire qu'il y a de quoi manger. Et une partie de la production est d'ailleurs vendue. On peut l'acheter sur place. Oui. Là-bas, à Versailles. Bon, on est assez loin, je crois, Stéphane, de votre potager Thierry Verdet.
C'est tout riquiqui, moi.
Et il y a encore des arbres de l'époque qui sont là ou pas ?
Alors, peut-être quelques-uns, mais en tout cas, probablement pas beaucoup, parce qu'il y a eu quand même des périodes de gel, et puis un arbre fruitier, notamment,
il a une durée de vie.
Donc on peut considérer que tout a été forcément replanté.
Les plantes basilic, c'est pas ceux du XVIIe siècle.
Vous savez, le basilic est une plante aromatique qui revient chaque année, en principe. Alors, malheureusement, je crois que celles de Louis XIV ont été mangées. Oui.
Mais merci beaucoup, Olivier. Mes aïeux, quelle époque, une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr. Voilà, historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe, et surtout trois nouveaux personnages, trois kings du kitsch, le roi de la démesure et roi tout court, Louis II de Bavière, et ses châteaux, disons, oniriques ou kitsch aussi, puis l'extravagant pianiste Liberace.
Et moi, je vous raconte un king du kitsch plus vivant, qui a mis du kitsch dans son art, l'artiste Jeff Koons. Si vous êtes gentil, Stéphane, je vous offrirai une de ses œuvres.
Oh bah oui, alors là, ça me ferait plaisir. Hein. Ah oui, oui, mais c'est cher, vous savez.
Oui, bah finalement, je vais réfléchir.
Bon, vivement demain quand même. À demain, les amis, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.